On peut dire que de 1942 à 1960, à peu près, la congrégation répond aux besoins, aux attentes de la population dans les différents milieux d'implantation. Puis pour qu'on voit un peu qu'est-ce que c'était ces réponses que nous avons données aux différents besoins, je les énumère assez rapidement. Le premier que nous avons trouvé, auquel nous devions nous dépêcher de répondre, c'était le besoin en personnel enseignant préparé. Il y avait des petites filles qui avaient une septième puis une huitième année qui enseignaient dans les écoles de campagne. Alors, la congrégation fonde quatre écoles normales et un scolastica école normale. Scolastica, c'est ce que ça veut dire, une école normale pour les sœurs. Deux de ces écoles-là deviennent mixtes, deux décernant le brevet A, 4 ans après la 11e année, lequel donne des droits, ipso facto, au bac en pédagogie décerné par l'Université Laval. Ensuite, dans un même domaine, mais beaucoup élargi, là, la congrégation a répondu à des demandes de personnel enseignant, par exemple, dans le continent africain. Alors, les besoins en personnel infirmier, c'était assez criant, ces besoins-là aussi. Les Sœurs de Charité de Québec, même si elles sont une communauté enseignante, ne peuvent pas oublier le soulagement de l'humanité souffrante. Ce fut l'enseignement, la formation dans le domaine de la santé, la fondation de plusieurs hôpitaux, une vingtaine d'hôpitaux, les écoles d'infirmières, là, je ne sais pas le nombre, d'infirmières auxiliaires, peut-être 4-5, mais il y avait plus d'écoles d'infirmières. Alors, c'était une réponse partielle aux besoins en personnel infirmier. Ensuite, les fondations d'instituts familiaux en région. À la demande des gens, on en ouvre un, 10e, 11e, 12e année, et 3 écoles ménagères moyennes, 8, 9, 10e année, et un cours familial. Ce dernier, particulièrement orienté vers la préparation à la mission d'épouse et de mère, bien, appelé plus familièrement la tenue de maison. Ensuite, l'ouverture du cours commercial. Je dis « du cours », mais il a été ouvert dans plusieurs écoles, parce que c'était en demande, ça, pour la préparation au travail de bureau. Il y avait plusieurs filles de familles nombreuses qui avaient hâte de gagner, puis d'apporter un peu leur part à la famille, puis avoir de l'argent de poche aussi. Les pensionnats de filles, ça aussi, c'est une ouverture. Dans tous les milieux d'implantation, il y avait des pensionnats de filles, où l'on accueille des étudiantes moins fortunées. Ensuite, dans le domaine de l'enseignement aussi, le cours lettres-sciences, ça date un peu, là. Et ensuite, il y a eu le vrai cours classique à Lévis, de 1957 à 1970, des éléments aux belles lettres. Toutes nos nouveautés qui supposent des préparations nouvelles pour les enseignantes. Alors, ça paraît être quelque chose de assez facile à vivre, mais ça supposait beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation nouvelle. Ensuite, une autre chose, c'est toujours référé à notre question, là. Alors, on a répondu aux besoins en ouvrant des orphelinats aussi. De 49 à 76, fondation de 16 maisons d'accueil pour orphelins. Ce n'est pas toujours des maisons à œuvre unique, comme par exemple, on a Giffard ici, qu'on voit très bien d'ici, mais qui est plus maintenant, il n'y a plus d'enfants là, puis c'est échangé comme bien d'autres choses. Mais là, c'était uniquement des orphelins. Il y en avait 600, filles, garçons. C'était une belle maison. Puis à Lévis, une œuvre d'orphelin aussi, mais une œuvre connexe. Il y avait le pensionnat pour jeunes, puis accueil pour vieillards. Bon, un autre domaine, l'enseignement privé de la musique, le piano surtout, les chants dans toutes nos maisons. Bon, je passe à une autre réponse, à un autre besoin qui est peut-être moins fréquent, mais qui est bien important. Les aveugles, il y avait une population qui n'était pas touchée par le public. Alors, on a répondu, nous avions une sœur qui est devenue aveugle, une sœur enseignante devenue aveugle à 30 ans. Alors, elle était pleine d'un désir de se rendre capable de rejoindre les enfants aveugles. Il n'y en avait pas en grand, grand nombre, mais il y en avait assez pour que les parents soient inquiets, puis que les enfants aient besoin aussi de quelqu'un. Alors, en collaboration avec l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, elle a réussi des choses. En 1965, elle a réuni une classe d'aveugles externes qu'elle a réussi à intégrer dans une classe régulière de la commission scolaire de Charlebourg. D'autres parents pourront y inscrire leur enfant aveugle jusqu'en 1985. Ça veut dire que ça a rendu service à un bon nombre, même si ça partait d'une personne, mais d'une personne qui voulait utiliser son état pour en aider d'autres. Ensuite, service aux malentendants adultes, c'est à peu près comme pour les aveugles. Il n'y avait rien du côté du public pour aider cette clientèle-là. Les malentendants jeunes avaient leur école, puis bon, c'est à Charlebourg, là, quelque part. Mais les adultes n'avaient rien. Une de nos sœurs, travailleuse sociale, décorée de l'Ordre du Canada et de plusieurs autres médailles, a fondé un service pour leur venir en aide. Le service, installé dans l'une de nos maisons attenantes à la maison de la Fondation au centre-ville, y a fonctionné durant 25 ans. Il y a maintenant pignon sur rue dans Limoilou, sous le nom de Service NDIA Incorporé, et depuis 2 ans, pendant qu'on a attendu la suite de, comment est-ce qu'on a appelé ça, le patrimoine immatériel, ben, elle a eu le temps de déménager. Là, puis elle a eu le temps de changer de nom aussi. Là, ça s'appelle Signe d'espoir, le service aux aveugles et aux sourds. Puis ça atteint beaucoup de monde. Puis c'est un grand aménagement qu'elle a. Elle a pu en recevoir. C'est tout un personnel. Ça a évolué beaucoup.